Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion. Radion. Un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir noté ce nouveau numéro de Wagon Livre. Aujourd'hui, 16 avril 2022, émission aujourd'hui d'hommage à un auteur iconé qui nous a quittés au début de ce mois d'avril 2022 à l'âge dans sa 93e année. Il s'agit de Serge Moreau, qui était né le 8 juillet 1929 à Fontenay près Chablis. Et je suis heureux de recevoir celui qui, à deux reprises, a édité des ouvrages de Serge Moreau. Gérard Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Alors Serge Moreau, effectivement, vous avez édité deux ouvrages, un roman et un atypique dictionnaire.
Absolument. Le roman se passait pendant l'occupation et le dictionnaire atypique des poètes français était beaucoup plus large. Il y avait des tas d'incidences où on voyait des poètes qui n'auraient pas forcément été dans une anthologie de la poésie française. Mais lui, il les avait mis, c'était assez réjouissant.
Alors, le roman de Serge Moreau, donc, qui nous a quittés il y a quelques jours maintenant. Donc, ce roman, vous l'avez édité aux éditions de l'Armançon en 2003. Il avait pour titre
Un petit train noir au temps des Lorifors.
Alors, c'était effectivement un va-et-vient entre le Paris de l'occupation et Mailly-sur-Serein, village fictif.
Absolument.
Derrière lequel se cachait Noyères-sur-Serein, que Serge Moreau a bien connu puisque ses parents étaient instituteurs.
Exactement.
Ont été notamment en poste à Noyères-sur-Serein. Alors, on reviendra sur Serge Moreau avec vous, l'éditeur de Serge. Je voudrais juste retracer le parcours de Serge Moreau. Je l'ai dit, donc né en 1929. Il a exercé 9 métiers officiels dans 17 maisons différentes. Donc ses parents étaient instituteurs. Ils sont nommés d'ailleurs instituteurs à Noyères-sur-Serein en 1942. Et durant toute la durée de la guerre, Serge Moreau est scolarisé au collège de Joigny. Alors il rentrait à Noyères seulement durant les vacances scolaires et il rendait visite à ses grands-parents à Chablis et à ses oncles et tantes à Mailly-le-Château, qui était d'ailleurs le village, le pays de son père, comme il le disait. Alors en 1945, Serge Moreau entre au collège à Tonnerre, où il restera jusqu'en 1949. Il fait son service militaire en Allemagne. Et en 1951, Serge a alors 22 ans, il prépare l'école française des cuirs et peaux. Il termine ses études de possier en 1954. Et c'est une industrie ou un artisanat qui va péricliter. Si bien que notre ami Serge est licencié en 1955, commence pour lui une période un petit peu difficile où il est sans le sou et sans hébergement. Il traîne et vivote à Paris dans Montmartre, se fait pas mal aider par beaucoup d'amis, parce que Serge était un homme de relations, on est d'accord, Gérard Gauthier.
Tout à fait.
Un bavard, un séducteur, un goût de l'anecdote extrêmement prononcé, on y reviendra. Et il ouvre un petit cabaret d'art et d'essai dans la cave d'un bar en sous-sol, rue du Beaujolais, au plein milieu du Palais Royal. Alors ensuite, il va diriger une galerie de tableaux, ça s'appelle l'Atelier Neuf, galerie qu'il va alors transformer en restaurant de nuit. Et c'est là, dans ce restaurant ouvert de 20h à 4h du matin, que Serge voit défiler des gens avec qui il a énormément discuté. Alors je les cite, Francis Lay, Michel Magne, pour lequel il travaillera plus tard, le poète montmartrois Bernard Dimet, qu'on trouve bien sûr dans son dictionnaire atypique des poètes de langue française.
Exactement.
Sempé, Goscinny, Raymond Devos, Cécile Aubry, Catherine Sauvage. Enfin, c'est la vie de bohème. Serge a bien connu cette vie de bohème à Montmartre. Alors, il était aussi poète parce qu'avant que vous ne l'éditiez, il avait écrit des recueils de poésie. Il avait d'ailleurs obtenu le premier prix de la ville de Paris en 1959. Et Serge était un passionné de tir à l'arc. au point qu'il passera des examens fédéraux de moniteur. Alors, il a travaillé un temps au Club Med l'été comme entraîneur, moniteur de tir à l'arc. Et puis, en 1971, Serge va donc devenir un peu le cuisinier au château d'Hérouville pour son ami Michel Magne. Alors, peut-être que certaines personnes ont oublié qui était Michel Magne, qui était un remarquable compositeur et qui a composé des musiques, je crois, d'un millier de films. C'est impressionnant. Il y avait donc un studio d'enregistrement et là encore, alors Serge Moreau a vu défiler les Adamo, les Nicoletta, je crois que sont passés même aussi des stars américaines qui venaient enregistrer dans ce studio d'enregistrement de Michel Magne, qui avait d'ailleurs un peu oublié de composer, qui était très accaparé.
Il le raconte d'ailleurs fort bien dans son troisième livre.
Dans le rendez-vous oui, Place du Tertre, absolument. Sorti aux éditions Saxo, donc c'est en 2011. Et puis, vous le savez, Serge Moreau était ce qu'on appelle boxophérophile.
Oui.
Alors Gérard, qu'est-ce qu'un boxophérophile ?
Eh bien, il collectionnait les boîtes en métal, les boîtes publicitaires. Il en avait d'ailleurs une collection exceptionnelle. Vous en parlerez certainement, puisqu'il en a fait don pour la plus grande partie au musée de Noyers, musée des Arnaïques.
C'est cela. Hein. Il les a données d'abord au Conseil Général de Lyon, pour être ensuite déposé au musée d'art naïf et populaire de Noyers sur Serein. Je voulais effectivement rendre hommage à Serge Moreau. On va d'ailleurs tout de suite entendre sa voix. Il raconte, c'est un montage, hein, donc il raconte de quelle manière il a vécu adolescent l'occupation. Et ensuite, il parle de la bohème montmartroise et notamment du peintre Jean Paul et de Marcel Aimé.
Eh bien, mes souvenirs personnels de l'occupation, c'est d'avoir eu froid et d'avoir très mal mangé au collège de Tonnerre pendant la guerre, et d'avoir eu moins froid et d'avoir beaucoup mieux mangé, sitôt que j'étais en vacances à Noyers. Parce qu'on trouvait à manger, on avait un jardin, on travaillait, et les pauvres Parisiens, c'était eux les grandes villes, Paris, Lyon, etc. Marseille en bavait énormément, Marseille avait peut-être moins froid que Paris, et on a eu deux hivers très froids. Ne pas croire, quand on parle des hivers de guerre épouvantables, il y a eu deux hivers froids, et deux moyens. Ah ben Marcel Aimé était un grand monsieur, un grand personnage, et on voyait Jean Paul et Marcel tout le temps ensemble, et ce qui était drôle, quelqu'un aurait dit Jean et aurait dit Monsieur Aimé ou Monsieur Marcel Aimé. Il avait un respect, il avait de l'allure, il causait pas beaucoup, mais il était très gentil, très poli, et sans causer, pour vous dire, il pouvait traverser une rue avant que vous le voyiez pour venir vous dire bonjour. C'était un être extraordinaire.
Grand joueur de cartes.
Oh là 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 là, il passait son temps à jouer aux cartes, aux dames, quand il avait qu'un concurrent, et aux cartes, il y avait deux, trois arrière-boutiques de galeries de tableaux donc chez Coste, il y avait l'arrière-boutique de Attilio, qui était le Pichet du Tertre, et aussi le Clairon des Chasseurs, les voyait jouer aux cartes et à la belote, pas d'autre jeu que la belote. Et il redescendait le soir, on disait qu'il écoutait, et dans la nuit, il transformait ça en roman, en pièce de théâtre, etc.
Gérard Gauthier, à l'instant, la voix de Serge Moreau qui nous a quittés au début du mois d'avril 2022. Comment avez-vous rencontré Serge Moreau et comment Serge Moreau vous a-t-il proposé un roman aux éditions de l'Armançon que vous aviez créé? Là, on remonte au début des années 2000. Hein.
Absolument. Alors, si vous voulez, moi, ça a été un peu le hasard pour la plupart de mes rencontres avec les écrivains, les auteurs qu'on a publiés aux éditions de l'Armançon. Il se trouve que je venais juste de publier le livre de souvenirs qui se passe à Joigny, qui s'appelle « À l'aube d'un brûlant été » de Denise Brunel. Denise Brunel qui est bien connue des gens de Lyon sous le nom de Nénise, parce qu'elle avait raconté son enfance en Puisaye. Et là, je l'avais rencontrée pareil, tout à fait par hasard. Elle m'avait envoyé un petit mot. Elle s'était arrêtée aux éditions, était venue me voir, puis elle m'avait montré, elle voulait que je réédite Nénise. Moi, je lui ai dit non, moi, je préférerais trouver quelque chose d'autre. Et c'est là où elle m'avait donné À l'aube d'un brûlant été. Et du coup, Madame Berger, la librairie Berger de Joigny, qui la connaissait bien, organise une signature. Donc j'avais tendance, en général, chaque fois que je pouvais, j'accompagnais ou je me rendais sur les lieux où se passaient les signatures de mes auteurs. Et là, on a eu affaire à deux grands bavards, parce que Nénise parlait énormément et racontait des choses passionnantes. Et j'ai vu arriver cet homme, avec sa, toujours avec sa vareuse, que je lui ai toujours vu, et puis sa gypsière. Il se travaillait toujours avec sa grande gypsière, vu qu'il y avait des tas de choses là-dedans. Et ils ont commencé à parler tous les deux. Et puis ils se racontaient des souvenirs de Joigny, évidemment. Ils se racontaient de la guerre, ils se racontaient de l'occupation. Et puis, de fil en aiguille, bon, moi j'écoutais, je parlais, je répondais. Et il a fini par me dire qu'il écrivait. Et donc il avait commis un texte. Je lui ai dit, écoutez, volontiers, oui, faites-le moi passer, il n'y a pas de problème. Et donc j'ai reçu le manuscrit, qui ne s'appelait pas Un petit temps noir au temps des Henri Fort. Je dois avouer très honnêtement que je n'ai pas le souvenir du titre qui était sur ce manuscrit, mais en tous les cas, c'était déjà quasiment la totalité de ce roman. Donc je l'ai lu, et comme j'avais l'habitude de lire, toujours de lire mes manuscrits avec un crayon, au fur et à mesure je corrigeais, et puis je lui ai dit, écoutez, moi c'est bien, mais le début, comme souvent d'ailleurs, il faut retravailler le début, parce que l'auteur attaque son manuscrit, et puis ensuite le style évolue, et ça coule beaucoup mieux au bout d'un certain nombre de pages. Et je lui ai dit, il faut absolument que les premières pages soient bien travaillées, de manière à ce qu'on n'ait pas de soucis. Et donc j'ai commencé avec lui. Alors j'avais emmené ça, je suis allé le voir chez lui. Il habitait à La Roche-Saint-Sidoine, au bord de Lyon. Et on a passé un après-midi entier à corriger. Alors évidemment, il y avait le pour, le contre, il était d'accord, pas d'accord. Enfin là, c'était le jeu de l'auteur et de l'éditeur. Et donc je lui ai expliqué ce que j'attendais dans ce manuscrit, et il l'a fait d'une façon tout à fait correcte, et avec au début j'ai cru qu'il allait se rebeller un peu, mais non, finalement il a compris qu'effectivement il y avait au début des maladresses et qu'il fallait les corriger. Il y avait quelquefois des invraisemblances, parce que comme c'est quelqu'un qui racontait très bien et qui racontait vite, qui avait des tas d'anecdotes, de temps en temps il y avait une anecdote qui venait là, mais un peu en avant ou un peu en retard, donc il fallait la resituer dans le cadre du récit. Mais voilà, c'était l'essentiel, toute l'histoire était parfaitement construite et passionnante, parce que c'est vrai que cette période de l'occupation, ce voyage permanent du héros entre Paris et Lyon, le village de Lyon, ça lui permettait de raconter des choses qu'il avait vécues. Alors donc, on se dit, tiens, quelle est la part du roman, quelle est la part de la réalité. Mais tout ça était parfaitement bien noyé, parfaitement bien structuré, ce qui fait que ça se lisait d'une façon très agréable. Ça a été un bon succès. D'ailleurs, les lecteurs ont beaucoup apprécié.
C'était effectivement très équilibré entre la part autobiographique et la part romanesque. Il y a ce village. D'ailleurs, Serge expliquera ce qu'on va rediffuser en hommage à Serge Moreau. Il dit qu'il n'a pas voulu, dans le roman, mettre le nom de Noyères-sur-Serein ou d'un autre petit village du Tonnerrois, parce qu'il craignait que quelqu'un lui dise « Ah oui, mais là, tu t'es trompé à droite, c'est pas ça. » Donc, il a inventé un village qu'il a désigné sous le nom de Mailly-sur-Serein, qui n'existe absolument pas dans le département de Lyon, mais derrière lequel se dévoile la cité endormie dans son Moyen-Âge qu'est Noyères-sur-Serein.
Oui, en plus, il a modifié un peu les personnages, certains personnages très, très hauts en couleur. Il leur a donné d'abord des noms complètement différents, et puis il en a arrangé quelques-uns pour éviter justement ce problème de que les gens disent, ben, ils racontent des choses. Voilà. Donc tout ce qui concerne tout ce qui concerne la guerre, tout ce qui concerne l'occupation, il y a des faits réels, et puis il y a beaucoup de romanesque. Et c'est ça qui est très bien, le personnage de la femme qui tombe, enfin les deux héros.
Donc Solange Vaupin, l'actrice, voilà, qui d'ailleurs lui a été inspirée par une actrice française qui a passé une partie de son enfance à Noyères-sur-Serein, c'est Micheline Prel.
Voilà, mais je crois que Micheline Prel, elle n'avait pas une maison après dans Lyon, elle n'a pas eu une maison, une résidence secondaire.
Ça, je ne sais plus, pas, Gérard.
En tous les cas, c'était ça sa force, c'est qu'il avait tellement rencontré de personnalités très fortes que dans ce roman il s'est servi de tout cela, mais pour le transcender, et c'est ça qui est très agréable, c'est que on partage complètement l'aventure de ces deux héros, on se laisse entraîner.
Et dans Le Petit Train Noir au temps des Henri Fort, ce qui est formidable, c'est aussi qu'il raconte les conditions dans lesquelles la vie culturelle et intellectuelle se déroule à Paris, la censure, la surveillance des Allemands, l'isolement, le froid, les coupures d'électricité, les autorisations qu'il faut avoir. C'est absolument passionnant d'un point de vue historique. Un retour sur les années noires de notre pays.
Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des petits détails. L'incendie de la chocolaterie, par exemple, dans le roman, où il y a mon dit, ça sent le chocolat partout dans Montmartre. Voilà, tout ça, c'est pour ça qu'il a bien su mettre le fictif sur la trame réelle. Et ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on a parlé du titre, Le petit train de mort en dédoré fort. Et moi, j'ai eu des gens qui m'ont demandé ce que cela signifiait. Pourquoi les Doryfort ? Il a fallu que, de temps en temps, alors bon, lui, qu'en signature, il expliquait, mais parce que c'était une expression que moi j'ai entendue quand j'étais tout gamin, par mes grands-parents, puisque je suis né pendant la guerre, et les Doryfort, c'était les Allemands, tout simplement parce que, les personnes qui ont un peu d'âge s'en souviennent, ils raflaient les pommes de terre. Et donc, les pommes de terre, si vous ne les traitez pas, les Doryfort mangent les pommes de terre, il n'y en a plus. Et donc, c'était ça, l'idée c'était ça. Et ce petit train noir, le petit train noir, on n'en a pas parlé non plus, mais le petit train noir a existé, le petit train qui traversait justement la Lyon. Et c'est cela qui a fait aussi une partie du succès dans le lectorat de Lyon, parce qu'il retrouvait des souvenirs, il retrouvait ce qui avait existé et qui malheureusement n'existe plus depuis longtemps.
Et puis dans ce roman, il raconte la libération de Noyers-sur-Serein, il raconte aussi comment la population de Noyers-sur-Serein va fusiller Laval, portrait de Laval qui était encore accroché, je crois, dans les locaux de la mairie de Noyers au moment de la libération. C'est absolument passionnant. D'ailleurs, Serge le raconte dans l'entretien qu'on va diffuser. Alors, l'entretien que nous allons entendre, donc ce samedi et le 23 avril le prochain, a été enregistré en 2010. Et c'est absolument passionnant. Un Serge Moreau, je me le rappelle, vraiment heureux d'être invité, parlant avec enthousiasme. C'était un bavard, un conteur, c'était un raconteur.
Voilà, exactement. Et j'ai retrouvé, quand vous m'avez demandé si je voulais bien dire quelques mots sur Serge, j'ai retrouvé dans les archives, il y avait un grand papier qui était paru dans Lyon Républicaine où il relatait la séance de conférence qu'il avait donnée à la bibliothèque de Tonnerre. Il y avait un monde invraisemblable. Il en a fait plusieurs, hein, parce qu'il en a fait une autre à Tonnerre, à la ferme de Lyon, avec nos amis libraires
Sylvie et Jean-Jacques Ricard, la librairie Plume et Images.
Qui l'ont reçu à plusieurs reprises, en signature à la librairie, mais ils l'ont reçu aussi dans les soirées. Il a même fait, je crois, des soirées de chant et de musique.
Il y a eu effectivement ensuite, mais c'était par rapport au livre Rendez-vous Place du Terre.
Voilà, exactement.
Il y a eu tout un cycle de chansons où il recréait l'atmosphère justement du restaurant, des cabarets, des caves que Serge avait connues à Montmartre.
Il savait captiver son auditoire sans aucun problème, parce qu'il avait toujours une anecdote nouvelle. C'est-à-dire qu'il a vécu, vous venez de le dire en préambule, il a vécu quand même dans un quartier qui était très riche, qui avait une vie passionnante, et c'est sûr que chaque fois qu'il parlait, il avait toujours quelque chose en plus. On a fêté en 2007 les 20 ans de la maison d'édition, et nous avions réuni une partie de nos auteurs, enfin ceux qui avaient pu se déplacer, et on avait fait une grande signature dans les éditions et dans le jardin des éditions, et puis on avait, ma femme et ma sœur, ma fille avaient préparé un repas à la maison, alors là, à Montigny, non pas à Précy, et Serge avait été invité. Il était à côté de Richard Marillier, un autre personnage que vous avez connu aussi, qui était donc le directeur du Tour de France, enfin le responsable d'abord, qui avait été directeur des courses chez Simplex en 47, puis ensuite qui était devenu l'adjoint de Lévitan Godet, et qui était donc le patron du Tour de France, qui amenait Hinault au championnat du monde en 81, enfin bref, donc, et qui avait vécu évidemment des aventures aussi à Montmartre, parce que c'était un personnage haut en couleur également, Richard Marillier. Et ces deux-là étaient côte à côte, et alors c'était très drôle parce que il y en avait un qui n'arrêtait pas de parler. Serge racontait et Richard de temps en temps voulait placer une anecdote, mais hop, aussitôt il y avait Serge qui disait, oui, mais justement à ce sujet-là. Enfin, c'était on passe à table, et puis Serge vient voir ma femme et lui dit, vous savez, c'est vraiment gentil de m'avoir invité. Bah, j'entends dire, non, vous faites partie de nos auteurs, sinon. Oui, non, mais Aujourd'hui particulièrement, c'est mon anniversaire.
Il aimait effectivement que les regards soient tournés vers lui. Il aimait un peu accaparer les gens.
Ah oui, oui.
Il savait le faire d'ailleurs.
Il avait un petit côté. Alors, en tout bien de temps, un petit côté cabotin. Hein. Il aimait ça. Il aimait. Et oui, il aimait le public. Il aimait le spectacle.
En tout cas, je crois qu'on peut, on doit pouvoir le trouver encore, ce superbe roman, peut-être d'occasion ou dans les bibliothèques.
Dans les bibliothèques,
de Lyon,
hein, je pense qu'il y en a. Et puis, le problème, c'est que il se trouve que moi, j'aime bien aller de temps en temps sur les brocantes. Et souvent, je regarde si je vois des livres des éditions d'Armançon, des formations. J'en trouve relativement peu. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que les gens qui ont acheté ces livres-là, qu'on a publiés pendant 30 ans, les conservent. Alors j'ai regardé, mais j'ai jamais trouvé le petit train noir tourné d'enfer. Mais en Côte d'Or, c'est peut-être normal qu'on ne le trouve pas.
Je rappelle donc le titre de ce premier roman de Serge Moreau que vous, Gérard Gauthier, fait paraître donc en 2003 aux éditions de l'Armançon, Le Petit Train Noir au temps des Doriforts. Mentionnons, alors c'était pas chez vous, c'était aux éditions Saxo.
Oui, mais
là c'est les souvenirs de Serge Moreau sur Montmartre.
Qui sont passionnants.
Rendez-vous Place du Tertre, et puis on signalera toujours aux éditions de l'Armançon, alors c'était en 2011-2012,
oui,
le dictionnaire atypique des poètes de langue française. Et je tiens à dire que pour celles et ceux qui connaissent Wagon Livre, et notamment son site d'archives, yannickpetit.fr, à la date de mars 2012, on peut entendre Serge Moreau décliner quelques définitions à sa façon, parce que c'était aussi c'était assez surprenant, ce dictionnaire atypique, par rapport à ce que c'est, lui qui aimait l'histoire, d'aller fouiller.
Ce qui était intéressant, c'est que vous aviez plus de lignes sur Dimet que sur Victor Hugo, par exemple. Voilà, c'était. Et c'était bien, parce que en disant après tout, qu'est-ce que je vais raconter sur Victor Hugo, bon, d'accord, je vais pas faire tout ce qui a déjà été fait. Alors que des gens comme Dimet, ceux-là, on n'en a pas souvent parlé, donc on en a parlé, mais on ne l'a pas toujours présenté comme un poète. Et c'est ça qui était intéressant. Il y en avait comme ça toute une série, surprenant même pour certains cas.
Merci Gérard Gauthier de cet hommage rendu à Serge Moreau qui nous a quittés au début de ce mois d'avril 2022. Puis je propose tout de suite d'écouter ce document d'archives donc qui date de 2010 et qui concerne Le Petit Train Noir au temps des Doriforts, le premier roman de Serge Moreau que vous avez publié aux éditions de l'Armançon en 2003.
Je pense que les auditeurs vont se régaler.
Eh bien, j'ai écrit ce que je connaissais le mieux. Noyères, où j'ai passé ma fin d'enfance et mon début de jeunesse, et la guerre, puisque je ne vais pas en faire toute une histoire. À Noyères, on était baigné dans la résistance. Alors, c'est des souvenirs énormes et extraordinaires. Et puis après, je suis allé travailler à Paris. Donc, j'ai bien connu Montmartre pour les raisons dont vous avez parlé. Et alors, donc, j'ai eu l'idée de lier l'histoire de Noyères et l'histoire un peu de Montmartre pendant la guerre, avec toutes les difficultés, justement. C'est ce que j'ai voulu raconter, comment on vivait, comment les gens rouvraient des jardins, reprenaient des clapiers. Pour vivre, il fallait vivre. Et puis Paris aussi, de plus en plus, avait de moins en moins à manger. Et l'astuce de Laurent, qui va nourrir pratiquement le théâtre où joue sans arrêt
Solange,
qui est dans un milieu montmartrois et artistique. Et comme c'est ce que je connaissais le mieux, j'ai voulu lier ça. Pourquoi Solange, me direz-vous ? L'idée de Solange m'est venue tout bêtement, si on peut dire, comment sort une idée ? C'est simplement, si on peut dire, parce que j'avais le souvenir de Micheline Prel à Noyères, qui a passé une partie de sa jeunesse. Alors, je ne l'ai pas connue personnellement, mais à l'école, on a retrouvé des cahiers d'elle. Et j'ai retrouvé plein de garçons qui avaient 1 an, 2 ans, 3 ans plus que moi, qui sont allés à l'école avec elle. Certains me disaient, j'ai repassé l'arithmétique, et elle me disait en dictée, ils s'entendaient parce qu'elle devait être meilleure en dictée qu'en arithmétique, et puis comme dans toutes les écoles, ça s'aidait comme ça. Et puis Micheline Prel a quitté Noyères, elle est allée à Paris un petit peu, je crois, dans une pension, et puis toute jeune, elle a été prise par le cinéma, et puis là, elle a éclaté au cinéma. Alors, partant de Micheline Prel, évidemment, j'ai inventé, j'ai brodé, et ça donne Madame de Vaucoupin, qui est dans le vrai nom, et Henriette de Vaucoupin, autrement dit Solange Vaupin.
Puisqu'on évoque Noyers-sur-Serein, restons dans ce beau village endormi dans son Moyen-Âge, Serge Moreau. Il y a, et on l'apprend dans votre roman, intitulé donc Un petit train noir au temps des Doriforts, il y a un réalisateur de cinéma français très célèbre qui, lui, est né à Noyers-sur-Serein.
Sa famille est originaire
de Noyers,
oui, incontestablement, et son frère, j'ai très 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 bien connu, et il s'appelait Monsieur Maudet, et ce monsieur-là qui s'appelait Christian Maudet, et il avait démarré dans le cinéma comme décorateur, accessoiriste, avant la guerre, et il s'était lancé dans le cinéma, et il avait un copain qui s'appelait Jacques. Et lui, il s'appelait Christian. Le copain, il y a une histoire, ils se sont fait foutre à la porte ou un truc comme ça. Et en souvenir de son copain, il en a créé son nom de film, Christian Jacques, toujours en souvenance de son copain.
Ce qui est formidable dans votre roman, Serge Moreau, c'est qu'on y apprend qu'en 1936-1937, Christian Jacques tourne un film. On est au tout début du parlant. Et il va demander bénévolement à la population de Noyers-sur-Serein de jouer les figurants pour son film.
Oh, figurants, même un peu plus. Le notaire faisait le chauffeur, on le voyait un peu plus, vous voyez quelques-uns, mais des figurants, oui, oui, oui. Et c'était le père Lampion.
C'est ça. Et vous écrivez, je vous cite dans le roman, donc c'est Christian Jacques, il avait embauché gratuitement les notables de la petite ville pour jouer les troisièmes rôles et les figurants intelligents. Ouais. Et le notaire, ce brave homme, avait fait un chauffeur de maître remarquable.
Ouais. Ouais.
Alors, dans votre roman, défilent de très nombreuses artistes et de très nombreuses comédiennes. Annie Ducot, Marie-Belle, alors évidemment, on est tout de même dans une génération autre, hein, bien
oui.
Évidemment. Mireille Balin,
oui.
Mademoiselle Bonaparte, Edwige Feuillère, la jeune Édith Piaf,
oui.
Viviane Romance.
Ah, oui.
Alors Viviane Romance, pendant l'occupation, Serge Moreau, elle s'est vue retirer deux fois sa carte d'identité professionnelle.
Oui, alors je vais faire juste une, parce qu'on pourrait en parler trois heures. Les comédiens ne travaillaient qu'avec une autorisation. Il y avait bien sûr une censure, des tas de gens qui cherchaient des ennuis à tout le monde pour les avoir en main. Si tu dis une blague, je te coupe l'autorisation, etc. Et Viviane Romance n'avait pas sa langue dans sa poche, elle faisait des réflexions, elle faisait des trucs, et elle a été interdite deux fois de travailler parce qu'elle avait dit je ne sais quelle blague, je ne peux pas citer ce qu'elle avait dit, mais, et d'autres moins importants, mais c'est surtout Viviane Romance qui a été interdite et d'autres.
Alors, on va marquer une première pause et nous allons écouter, alors Serge Moreau évidemment, vous connaissez cette chanson, c'est la chanson d'un film qui date de 1941, un succès qui a énormément, je suis sûr que vous avez trouvé, avec une magnifique comédienne qui s'appelle Danielle
Darrieux.
Et le titre de la chanson, Serge Moreau.
Ah, le titre de la chanson qui a fait, cette chanson qui a fait courir toute la France, des collégiens aller voir deux fois, trois fois Danielle Darrieux. Ah, qu'il doit être doux l'instant du premier rendez-vous.
Serge Moreau, à l'instant, à notre micro, dans un entretien enregistré en 2010, un hommage que nous rendons à cet écrivain de Lyon qui nous a quittés il y a quelques jours dans sa 93e année. Nous le retrouverons d'ici quelques minutes, le temps pour nous d'une première pause musicale. Je rappelle que c'est votre émission littéraire Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion.
Le temps filé, c'est tout, on respire malgré nous, on fait bien comme on peut. On parle encore avant que d'être mort, on fait bien de son mieux. Ils disaient que la vie c'est des terrasses et puis du soleil des fins du jour. Ils disaient que les rêves c'est la prose de la vie, qu'il faut y croire toujours. Si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si
la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Il disait qu'à son âge c'est l'heure d'aller au nuage, le sourire jusqu'au bout. Il disait chaque fois que tout disparaîtra, disparaître à son tour. Le ciel et puis la terre, nos enfants et nos pères, et puis nous au milieu. La vie c'est pas grand chose, des rêves et de la prose, mais fais-en ce que tu veux. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour. Si la vie avance, si la vie avance, elle se termine un jour. Et moi quand j'y pense, et moi quand j'y pense, je suis rempli d'amour.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Il y avait des collabos, il y avait des mous, il y avait des futurs héros, mais il fallait vivre avec les Allemands et il valait mieux les endormir que tout de suite te dire « ça va pas, on veut pas vous entendre ». D'ailleurs, il fallait vivre, il fallait de l'argent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le cinéma français à l'époque a vécu d'une manière extraordinaire et a produit des films splendides qu'on voit encore dans les ciné-clubs, et le cinéma français était le premier cinéma d'Europe. Pour deux raisons aussi, les Anglais, eux, faisaient la guerre tandis que la France dormait un petit peu, 41-42, ça bouge qu'à la fin de 43. Les Russes, ils font surtout des films de propagande à la gloire du parti. Et l'Italie, presque rien. L'Espagne est exempte parce qu'elle sort de
la guerre civile,
de guerre civile. Et la France a joué tranquillement, mais avec des difficultés énormes. Fallait trouver des pellicules. Il y avait des coupures de courant. Il faisait froid dans les studios. C'était épouvantable. Et malgré tout, on a sorti des films extraordinaires.
Alors, justement, Serge Moreau, ces films fameux. Alors, par exemple, je les ai répertoriés dans l'ordre chronologique.
Ça vaut mieux parce que ma tête a des fuites.
Voilà, et je me suis inspiré de la conférence que vous aviez donné à Tonnerre fin janvier de l'année 2010.
Merci.
Donc j'ai reclassé tout ceci, donc je vais les lister.
Oui, ah ouais.
Et puis vous commentez, Serge Moreau, si vous le désirez.
Non, mais...
Alors par exemple, en 1941, il y a un film qui s'intitule L'assassinat du Père Noël, avec Harry Bore, Raymond Rouleau,
ouais,
René Faure, Fernand Ledoux, Robert Levigan. C'est un film d'ailleurs de Christian Jacques.
Voilà.
Il y a en 1942 de Marcel Carnet un film extraordinaire, Les Visiteurs du Soir.
Hein?
Henri-Georges Clouzot, en 1942, signe un film noir policier qui se situe d'ailleurs à Montmartre. C'est le fameux Assassin habite au 21, avec Pierre Fresnay, Suzy Delair, Pierre Larquet, okay, Noël Roquevert et Jean Tissier. En 1943, un film sur... l'ambiance d'un petit village, ambiance pourrie liée à des lettres anonymes, c'est
Le Corbeau.
Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot.
Tellement célèbre que ça a donné un nom. Le Corbeau, tout le monde, les tas de gens parlent d'un corbeau, ils savent même plus d'où vient l'origine du corbeau quand on parle de lettres anonymes. Et ça vient de ce film-là.
Mais vous m'apprenez quelque chose.
Ah ben oui, jamais en France on a dit Le Corbeau avant. C'est parce que dans les lettres anonymes, le gars signait Le Corbeau.
D'accord.
Et ça donnait le titre du film, et tout le monde parle du corbeau, même dernièrement, vous avez pu voir dans des journaux, le corbeau untel, le corbeau a fait ceci, cela. Alors, ça vient de Clouzot.
D'accord. Sujet grave et lourd quand même dans le corbeau, parce qu'il s'agit de dénonciations calomnieuses, l'anonymat, surprenant dans cette France de l'occupation, où tout de même, malheureusement, il y a eu des dénonciations.
Incontestablement. Mais alors, ce qui est, si on peut dire, drôle, c'est que les partis politiques, après, ont toujours dit « c'est à cause de ceci, c'est le reflet de cela ». Alors, on a dit « c'est les Français qui sont des salopards et qui dénoncent ». On a dit c'est des Allemands qui payent des Français pour dénoncer et tout. Clouzot a fait un film d'actualité, etc. Et le mieux, c'est que le film, le scénario du film date de 1936. Et à l'époque, on n'a pas voulu le faire pour ne pas déplaire au Front Populaire. Vous vous rendez compte comme c'est extraordinaire, cette histoire-là. Les gens montent des choses énormément, alors que des fois, c'est beaucoup plus simple.
Je poursuis donc dans la production cinématographique française de l'occupation. Il y a un film qui repose sur un scénario de Jean Cocteau et de Jean Delannoy en 1943 avec Madeleine Sologne et Jean Marais. C'est L'éternel retour. C'est alors, le film qui a mis un petit peu le pull over jacquard à
l'heure. Alors voilà, j'allais vous le dire, vous avez bien fait de le dire. La moitié des petits gars de 19 à 30 ans, ils avaient un pull over jacquard fait plus ou moins bien par la petite commune, la petite copine, la grand-mère ou la tante. Tout le monde se baladait avec le fameux pullover de Jean Marais, qui, alors on peut dire un mot extraordinaire, Jean Marais était beau comme un dieu, si on voit le film, il est splendide, et alors je vais sortir une seconde de ça, et ce qui est extraordinaire, c'est que tout de suite après la guerre, on a envoyé le film, L'éternel retour, qui était un grand film, un beau film, en Angleterre, pour montrer ce qu'on avait. Et le film est revenu d'Angleterre, il a fait un fiasco total, c'était vraiment extraordinaire, on ne s'y attendait pas, et il a fait un fiasco, pourquoi ? Parce que pour les Anglais, Jean Marais était le prototype du bon à rien.
C'est vrai, blond,
et voilà.
Très
et
fin.
Et ils ont dit, c'est avec ça que vous vous jouiez, on ne veut pas de ce gars-là ici.
D'accord. Il y a un film qui est tourné pendant l'occupation et qui va sortir en 1945, alors c'est l'extraordinaire film de Marcel Carné, Serge Moreau.
Les enfants. Enfants du paradis.
Alors là, il y a une pléiade belles actrices, de beaux. Enfin, c'est surtout Arletty, Jean-Louis Barrault, Marcel Errand, Pierre Brasseur. Et puis alors, il y a une curiosité en 1945, un film qui a été imité par les choristes de Christophe Baratti en 2004. Oui. C'est.
La cage au rossignol.
La cage au rossignol.
Ouais, ouais, ouais.
On propose dans le roman à Solange d'aller chanter en Allemagne. Certains l'ont fait. Alors, Edith Piaf, Maurice Chevalier sont allés chanter dans les camps de prisonniers pour distraire les hommes en captivité.
Oui, oui.
Alors, Maurice Chevalier a réussi tout de même parfois à sortir quelques prisonniers handicapés.
Oui, oui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Maurice Chevalier a notamment chanté dans le camp où il a été prisonnier 20 ans avant, il était aviateur, il a été abattu, et il était un an et demi, je crois. Et il a voulu rechanter dans le camp où il avait été prisonnier 20 ans.
Toujours avec Serge Moreau, aujourd'hui notre invité, il est l'auteur d'un roman paru aux éditions de l'Armançon, roman qui s'intitule « Un petit train noir au temps des Doriforts », l'occasion pour nous de revisiter, de nous plonger dans l'histoire et notamment dans l'histoire du monde artistique sous l'occupation. Alors à ce sujet, Serge Moreau, une petite anecdote sur les difficultés pour réaliser des films sous l'occupation.
D'abord, il fallait une autorisation, bien sûr, sans arrêt. Mais si on venait les tourner en province ou en décor, imaginez l'enquête qui était faite. Pourquoi allez-vous à tel endroit? Pourquoi, s'il fallait un vieux château ou une chose comme ça? Et quand, par malheur, on avait besoin d'une arme ou un fusil de chasse ou un revolver, c'était 3 mois d'attente. Et une fois même, il y a eu on a eu besoin d'un revolver. Et c'est un officier lui-même qui est venu tirer au revolver. Hein, vous rendez compte, un capitaine qui est venu tirer au revolver. Mais je voulais vous dire aussi comment c'était dramatique. Quand ils ont tourné Les Visiteurs du soir, je ne sais pas si certains vont revoir l'image du banquet, justement, où il y a le diable et ils sont au banquet. Eh bien, il a fallu reprendre le film. Il n'y avait plus rien à manger parce qu'ils avaient mis à manger sur la table et les gens. Et alors, aux reprises, on a mis des aliments en plastique, en verre et autres pour que les gens ne le mangent pas parce qu'ils ont tout bouffé sur la table. Pendant le film.
Alors, il faut éviter la censure, il faut essayer de tourner entre les pannes électriques.
Ah ben, ça s'arrête.
Il fait froid.
L'hiver, c'est épouvantable. D'ailleurs, quand on voit les films d'époque, si on regarde bien, on voit des films qui sont censés se passer dans une chambre, dans une cuisine et autres, et on voit la laine qui sort de la bouche des comédiens, tellement il faisait froid dans les studios, alors que les pauvres étaient peut-être en tenue légère. Vivienne, Edwige Feuillère s'est évanouie une fois de froid avec d'autres filles. Vous comprenez, c'était intolérable de travailler en plein hiver comme ça, on chauffait pas les studios.
Je vous lis Serge Moreau, hein, voici ce que vous écrivez dans votre roman.
Il n'y a pas de raison.
De toute façon, pour vivre ou survivre, il fallait suivre les directives de l'occupant. Ces messieurs fourraient leur nez partout, surveillaient tout, réglementaient tout, donnaient les autorisations et distribuaient argent et subventions comme il leur plaisait. Metteurs en scène, directeurs de théâtre, acteurs se trouvaient dans l'obligation d'accepter leur bon vouloir et de composer sans cesse. Durant toute la guerre, je ne jouerai donc que des rôles de composition, disait Strator, toujours pince sans rire, puis plus sérieux, en attendant, jouons le rôle du roseau et non celui du chêne. Tout est dit.
Voilà, tout est dit. C'était ça. Mais il fallait travailler. Et puis alors surtout, on peut le dire carrément, on peut aller le voir, Le Dernier Métro, le film Le Dernier Métro, qui est un très bon film, J'ai pas trouvé une erreur dans le film.
Il y a la centrale catholique qui, elle aussi, attribue une note au film. Vous pouvez nous en parler un peu, Serge Moreau, parce que ça, c'est quand même des choses très lointaines.
Alors, disons-le carrément, la centrale catholique, Pétain, le sabre et le goupillon, tout ça allait ensemble. Alors, la centrale catholique était très forte, elle était appuyée, bien sûr, par le régime de Vichy, et elle envoyait dans tous les paroisses un petit bulletin, je crois à peu près par mois, qui indiquait les films qui venaient de sortir. Et elle notait de 1 à 6. Alors 1, 2, on n'en parle pas, c'était des petites mignardises et des choses comme ça. Et on est affolé par le nombre de chiffres, 5, 6, 7, pour des films maintenant qu'on en rigolerait même. Cuisse apparue, on aperçoit une cuisse, on soupçonne un sein, il y a un gros mot à la fin d'un truc. Une femme s'en va, elle ne se marie pas avec le fiancé que l'on croit, ils s'en vont, mais ils ne se marient pas.
Là, la note est très mauvaise. Là, c'est un 6.
6 plus.
Le corbeau a eu un 6.
Ah oui, ben, c'est normal, c'était dégoûtant ce qu'il avait fait, comme vous rendez compte. Et puis alors, c'était le défaitisme. Alors, bien sûr, on reprochait au cinéma français, même d'avant-guerre, d'avoir été des films de Jean Gabin avec Michel Morgan étaient interdits d'une part parce que Gabin et Morgan étaient en Amérique, ça c'était encore autre chose.
On y reviendra.
Mais c'est des films défaitistes et il y avait tous ces grands parleurs qui disaient que c'était à cause de ces films-là qu'on avait pourri la jeunesse française.
Les années noires et l'occupation racontées par Serge Moreau dans un entretien enregistré en 2010. C'est l'hommage que nous souhaitions effectivement lui rendre après sa disparition il y a quelques jours dans sa 93e année. Nous marquons un nouvel intermède musical et le récit de Serge Moreau, conteur, poète et raconteur, reprendra juste après. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Le livre par la fin, j'ai le menton haut pour un rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur ça. Ne tiens pas debout, le ciel. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Oh, oh.
pire qu'une simple moitié. On compte à demi-demi, pile sur un des bas-côtés comme des origami. Le bras tendu paraît cassé, tout n'est qu'épier et clié. Ces enfants bizarres, crachés dehors comme par hasard, cachant l'effort dans le griffoir et une creepy song en étendard qui fait.
Émission littéraire.
Nous retrouvons Serge Moreau dans un entretien enregistré en 2010 autour de son premier roman « Un petit train noir au temps des Doriforts ». Cette fois-ci, Serge Moreau revient sur un personnage haut en couleur qui résidait sur la butte Montmartre à Paris. Il s'agit du dessinateur Francis Poulbeau.
Francis Poulbeau était un dessinateur qui a dessiné des petits gamins qui couraient dans Montmartre. Il en a tellement dessiné, ça fait des cartes postales, des illustrations, etc., que maintenant les petits gamins s'appellent les Poulbeau. C'est lui qui a donné le nom. Et en plus, pendant la guerre de 14-18, il a fait des tas de dessins où l'on voyait des gamins carrément qui mettaient une casserole sur la tête d'un Allemand et en disant « lui qui a une sale gueule, il fera le boche ». Et les Allemands ont tout relevé, tout repéré, tout. Et dès leur arrivée en France, tout était organisé, croyez-moi, chez les Allemands. Ils sont arrivés, certains spécialistes, chez Poulbeau, et ils ont voulu l'arrêter et l'enfermer. Il y a quand même eu une discussion avec des gens qui avaient un peu de poids, si toutefois ils avaient du poids. Et alors les Allemands lui ont dit « D'accord, mais vous ne bougez pas de votre maison et vous fermez vos fenêtres ». C'est pour ça que Solange va le voir et lui tenir compagnie et lui raconter un petit peu ce qui se passe de la vie parisienne. Et le brave Francis en est très content.
Alors le truculent peintre Jean-Paul, vous l'avez vous aussi aperçu?
Ah, plus qu'aperçu.
Et rencontré à Montmartre.
C'était un témoignage permanent. Gégène, on disait jamais Jean-Paul. On disait Gégène. À la rigueur, j'ai jamais entendu dire Monsieur Jean-Paul. Et Gégène, c'était le personnage montmartrois, né à Montmartre, ayant appris le dessin dans la rue comme ça parce qu'il était doué, va faire la guerre, revient tout de suite rapidement avec une jambe en moins et il reste à Montmartre, il dessine, il vivote et il commence à gagner sa vie après vers 1930 et quelques, en même temps que Utriau et quelques autres.
Jean-Paul avait pour acolyte Marcel Aimé que vous avez côtoyé.
Ah ben Marcel Aimé était un grand monsieur, un grand personnage, et on voyait Jean-Paul et Marcel tout le temps ensemble, et ce qui était drôle, quelqu'un aurait dit Gégène et aurait dit Monsieur Aimé ou Monsieur Marcel Aimé. Il avait un respect, il avait de l'allure, il causait pas beaucoup, mais il était très gentil, très poli, et sans causer, pour vous dire, il pouvait traverser une rue avant que vous le voyiez pour venir vous dire bonjour. C'était un être extraordinaire.
Grand joueur de cartes.
Oh là 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 là, il passait son temps à jouer aux cartes, aux dames quand il avait qu'un concurrent, et aux cartes, il y avait deux, trois arrière-boutiques de galeries de tableaux dans chez Coste. Il y avait l'arrière-boutique de Attilio qui était le pichet du tertre, et aussi le clairon des chasseurs les voyait jouer aux cartes et à la belote, pas d'autre jeu que la belote. Et il redescendait le soir, on disait qu'il écoutait, et dans la nuit, il transformait ça en roman, en pièce de théâtre, etc.
Alors, une petite anecdote concernant Marcel Aimé jouant avec...
Il y en a des tas. Celle où il joue avec un menuisier.
Oui. Ah.
Alors le menuisier s'appelait Dédé et il rencontre Place du Tertre parce que c'était un samedi et Dédé avait un travail à finir. Il habitait ailleurs et son atelier était, pour ceux qui connaissent, devant la Péagile, devant la vigne de Montmartre. Et Dédé passait Place du Tertre lorsque Jean-Marcel Aimé le rencontre et lui dit « Allez Dédé, viens jouer avec moi, viens faire une petite partie de dame. » Dédé n'avait pas trop envie parce qu'il avait du travail, mais on ne refuse pas une partie à Monsieur Marcel Aimé et il joue aux dames et Dédé gagne une partie. Il se fait accrocher, mais il pensait à son travail et il joue et il gagne. Et Marcel lui dit « Alors, on fait la revanche. » Et à ce moment-là, c'est Dédé, je crois, qui a gagné. Oui, il a gagné. Il s'est laissé accrocher parce que Dédé voulait dire « Plus vite j'aurai fini, plus vite je pourrai aller à mon travail. » Et donc, ils avaient chacun gagné une partie et Marcel Aimé dit « La belle. » Et alors là, Dédé, il n'en peut plus, il pense à son boulot qui finira pas et il se laisse plus ou moins battre. Et Marcel Aimé, à ce moment-là, qui n'avait pas dit un mot, lève ses grosses lunettes noires parce qu'il avait des yeux malades. Il lève ses grosses lunettes noires, regarde Dédé et lui dit « Dédé, tu joues comme un con. Allez, paye les consommations. »
Alors, Serge Moreau, une autre anecdote concernant l'auteur de La Jument Verte, Marcel Aimé.
J'en ai tellement, mais celle-là qui me vient vite à la tête. Un jour, Marcel a besoin de se faire couper les cheveux. Alors, il va chez un coiffeur qui n'était pas son coiffeur habituel. Pourquoi ? J'en sais trop rien. Et le coiffeur le reconnaît, parce que c'était dans Montmartre et tout le monde connaissait la silhouette de Marcel Aimé. Et le coiffeur, le voyant arriver, lui dit « Bonjour, monsieur Marcel Aimé. Comment allez-vous, monsieur Marcel Aimé ? Tenez, asseyez-vous là, monsieur Marcel Aimé. Je suis à vous dans 5 minutes, monsieur Marcel Aimé. » Marcel, qui commence déjà à en avoir plein le dos, il s'assoit, il ne dit pas un mot. Et le coiffeur exécute au sens propre son client qui était devant lui, laisse les autres clients à son garçon, sans s'occuper des autres clients qui attendaient, et il claque sa serviette comme autrefois, et lui dit « Je suis à vous, monsieur Marcel Aimé, asseyez-vous, monsieur Marcel Aimé, êtes-vous bien, monsieur Marcel Aimé ?» Et il lui met la serviette autour du cou, et il lui dit « Comment je vous coupe les cheveux, monsieur Marcel Aimé ?» Et Marcel retire doucement ses lunettes de son figure, les met dans sa pochette, regarde le coiffeur et lui dit en silence.
Fin de la première partie de cet hommage rendu à Serge Moreau qui nous a quittés il y a quelques jours dans sa 93e année. Vous avez pu réentendre la première partie d'un entretien qui avait été enregistré en 2010 autour de son premier roman, Un petit train noir au temps des Doriforts, paru alors aux éditions de l'Armançon. Deuxième partie de cet entretien samedi prochain à 11h sur Radion. Serge Moreau évoquera cette fois-ci le monde artistique et de quelle manière les actrices et les acteurs se sont engagés dans la résistance, dans les combats qui ont mené à la libération de la France. Et puis, un autre rendez-vous à venir dans votre émission littéraire et à noter dès à présent. Le 30 avril, nous vous proposerons une émission avec le romancier Didier Cornaille à l'occasion de la parution de son nouveau roman aux Presses de la Cité et qui a pour titre Les Bois de Discorde. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine, congé de fin de semaine pascal. Profitez bien en famille de ces instants où l'on peut se retrouver et commémorer Pâques dans la paix et l'harmonie. Très bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à samedi prochain.